France Inter.
France Inter, il est 19h. Les infos avec Corinne Audouin, bonjour.
Bonsoir à tous. Qui arrêtera la pétition contre la loi Duplomb, signée ce soir par plus d'un million de personnes? Le nombre de signatures pour demander son abrogation a doublé en 24 heures. Zoom ce soir sur le rôle viral joué par les réseaux sociaux. Dans l'actualité également, l'enquête sur les violences de la nuit dernière à Béziers, sans doute en lien avec l'arrestation de plusieurs dealers. Nous serons à Berlin, où la ville inaugure le concept de ville éponge, pour ne pas perdre une goutte d'eau de pluie. À l'arrivée du Tour de France à Carcassonne, étape marquée par la chute de Julian Alaphilippe, qui a heureusement pu repartir avant la météo mitigée, Magali Rochereau.
Oui Corinne, et encore des orages forts ce soir et cette nuit en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est l'image du jour, celle d'une tour HLM qui s'écroule, symbole d'une époque révolue. À Loos, ce matin près de Lille, on a dynamité la tour Kennedy, 28 étages de haut, construite en 1969. Elle était devenue vétuste et inadaptée, disparition suivie en direct par ses anciens habitants. Juliette Penn pour Ici Nord.
En quelques secondes à peine, les 28 étages de la tour sont réduits en poussière.
Ouais, bravo !
Au pied de l'immeuble, Fatia est sous le choc.
Ça m'a fait un passement au cœur, sincèrement. J'ai eu les larmes aux yeux. C'était impressionnant, en fait.
La rapidité de l'effondrement, le bruit aussi, mais pas seulement.
Surtout le nuage de fumée juste après. C'est ça qui est impressionnant. C'est des souvenirs qui partent un peu en fumée, vous voyez.
Sarah a habité la tour pendant 18 ans.
J'ai passé toute mon adolescence ici. Moi, j'ai tous mes souvenirs ici. Ouais, ça fait bizarre.
C'est compliqué à vivre de voir toute une vie partir en une seconde et demie, littéralement. Mais en soi, je pense que c'est important de vivre avec son temps.
Car cette démolition doit permettre de réhabiliter et désenclaver le quartier, mais Nadia a du mal à s'y faire.
C'est triste. Pour ça, j'ai pris plein de photos. Tous les jours, j'en prenais une. Parce que la tour Kennedy, c'est quand même 10 ans de ma vie. Il y avait une bonne ambiance, on s'entendait bien. Franchement, j'ai eu mes plus belles années là.
Alors, pas question de rater l'événement.
Fallait qu'on soit là pour lui dire un dernier au revoir. Même si on n'a pas vécu, on était attachés. C'était la plus grande tour du Nord-Pas-de-Calais, le symbole du Nord.
Une fierté pour tous les habitants de Loos, un repère dans leur paysage qui appartient désormais au passé.
Juliette Penn, Ici Nord, ex-France Bleu, rénover les quartiers en difficulté pour plus de mixité sociale, d'activité et aussi de sécurité. Ça s'appelle la politique de la ville et elle est au cœur des violences qui ont embrasé ces derniers jours certains quartiers de Charleville-Mézières, Limoges ou encore Béziers. Des tirs de mortiers d'artifice, notamment contre les forces de l'ordre, apparemment liés à la fermeture de points de deal. Bonsoir Delphine Evenou.
Bonsoir Corinne.
On va revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière à Béziers, dans le quartier de la Devèze, avec un piège tendu aux policiers.
Parmi la cinquantaine d'individus qui attendaient les forces de l'ordre, certains étaient positionnés sur les toits des immeubles, rapporte le chef de la sûreté départementale de l'Hérault, pour qui il n'y a pas de doute, le feu de poubelle et de voiture était un guet-apens. Le procureur de la République de Béziers, lui aussi, estime qu'il s'agissait d'un piège, une réponse à une opération anti-stupéfiant il y a quelques jours. Raphaël Ballanche, chez nos confrères de France Info.
Il y avait eu des interpellations d'auteur, mais il y a aussi la saisine importante d'une quantité de stupéfiants. Donc c'est un manque à gagner important pour eux. Ils sont pas contents, ils l'expriment, mais ils l'expriment avec des moyens évidemment illégaux puisque leur marché lui-même est totalement illégal.
Et dans le cadre de cette enquête, parmi les petits revendeurs, deux mineurs ont été déférés hier et aujourd'hui. Un majeur comparaît demain, mais au-delà des trafiquants, le procureur Raphaël Ballan en appelle aussi à la responsabilité des consommateurs.
Quand on consomme des stupéfiants, c'est un marché, il faut bien comprendre cela, c'est un marché très lucratif. Et donc quand on va dans ces quartiers pour acheter de la drogue, que ce soit du cannabis ou de la cocaïne, qui sont les produits les plus souvent vendus. Quand on achète ces produits-là, on prend sa part de responsabilité dans tous les phénomènes d'attaque de policiers, de règlement de compte et surtout, j'allais dire, les ravages de la drogue dans notre pays.
De son côté, le préfet de l'Hérault a annoncé l'arrivée en renfort d'une unité de CRS pour cette nuit.
Merci Delphine Evenou. J'ajoute qu'un policier a été légèrement blessé. Le million, non, ce n'est pas la réminiscence d'un vieux jeu télé, mais la barre symbolique franchie aujourd'hui par la pétition pétition contre la loi Duplomb, une pétition citoyenne déposée sur le site de l'Assemblée nationale qui ouvre la voie à la tenue d'un débat à la rentrée en séance publique. La loi Duplomb, très critiquée par les défenseurs de l'environnement, réautorise notamment un pesticide nocif pour les abeilles, pesticide jugé indispensable par les deux principaux syndicats agricoles. Alors comment en est-on arrivé à un tel chiffre inédit en seulement 10 jours ? Bonsoir Lou Bourdi.
Bonsoir.
Les réseaux sociaux ont joué un rôle très important et notamment Instagram.
Oui, exactement. Qu'ils vivent à Marseille, Paris ou Toulouse, presque tous les signataires avec qui nous avons échangé le disent. C'est lorsqu'un influenceur écologiste a partagé la pétition sur Instagram qu'ils l'ont découverte et signée.
Sur Instagram, sur le compte de Gaëtan Gabriel.
Sur Instagram, notamment par la militante Camille Etienne.
Gaëtan Gabriel, créateur de contenu sur le climat, plus de 300 000 abonnés. Camille Etienne, activiste écologiste, près de 600 000 abonnés. Mais ils ne sont pas les seuls à être actifs sur les réseaux sociaux. Le gouvernement aussi assure le service après-vente.
C'est assez drôle parce que j'avais eu son service de com qui m'avait répondu.
Sur Instagram, Théo Parisien a interpellé directement la ministre de la Transition écologique, scandalisée par la loi Duplomb, et elle lui a répondu.
Dans cette réponse, elle présente le fait qu'elle était contre la réintroduction du pesticide en question et qu'elle a perdu le vote. C'est assez étonnant de recevoir ce type de réponse, je ne m'y attendais pas du tout.
Une pétition, vous l'avez compris, qui a donc explosé principalement sur Instagram. Et c'est dommage, regrette Karen, elle a 34 ans, ingénieure à Toulouse.
Pour moi, effectivement, les personnes d'une génération qui vont moins sur ces réseaux n'ont pas accès à cette pétition et elle atteindrait certainement des sommets encore plus hauts si tous les gens pouvaient y avoir accès.
Et la pétition reste ouverte jusqu'à juillet 2026.
Merci Lou Bourdi. Et cette pétition doit encore passer un certain nombre de filtres avant d'aboutir à un débat. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est pour.
Bien sûr, on peut que constater les chiffres qui montrent qu'une partie des Français veulent que l'on débatte. Nous pourrons organiser un débat dès la rentrée parlementaire sur ce sujet. C'est un sujet qu'on abordera en conférence des présidents, mais j'y suis évidemment favorable. Mais après, c'est un débat qui est encadré. On est dans le cadre d'un texte qui a été voté et qui est un texte important et qui va permettre de sauver un certain nombre de nos agriculteurs. Et donc, le débat ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée.
Yaël Braun-Pivet, invitée de France Info.
France Inter. Corinne Audouin.
Le pape appelle à mettre fin à la barbarie de la guerre à Gaza. Léon XIV l'a dit à la fin de l'Angélus, trois jours après une frappe israélienne sur la seule église catholique du territoire palestinien. Un message qu'il a élargi à tous les habitants de Gaza, alors qu'à nouveau l'armée israélienne a tiré sur des Palestiniens près d'un point de distribution alimentaire. Selon la défense civile de Gaza, il y a 57 morts. Correspondance d'Alice Moreno.
Des milliers de Gazaouis affamés se sont rassemblés ce matin à proximité d'aide humanitaire dans la zone de Zikim au nord-ouest de la ville de Gaza. Tous avaient l'espoir de récupérer de simples sacs de farine pour survivre. C'est à ce moment-là que des dizaines de personnes ont été tuées par des tirs israéliens, assure la défense civile de Gaza, et plusieurs dizaines ont été blessées. La Gaza Humanitarian Foundation dément que la scène se soit déroulée à proximité de l'un de ces points de distribution. Ce pourrait être des camions transportant de l'aide humanitaire vers lesquels se dirigeaient les Gazaouis. De son côté, l'armée israélienne indique avoir réalisé des tirs de sommation, se sentant menacée, sans donner davantage de détails sur la nature de cette menace. Par ailleurs, l'armée israélienne indique aujourd'hui étendre ses activités autour de Deir el-Bala, y compris dans une zone où elle n'avait encore jamais opéré, exhortant les civils à se déplacer vers le sud du territoire.
Alice Moreno. Et puis en Syrie, depuis les violences entre Druzes et sunnites dans le sud du pays, 128 000 personnes ont dû fuir la zone de Souaida, un chiffre annoncé par l'ONU. Sur place, le calme semble revenu. Un premier convoi humanitaire a pu entrer dans la ville. Les affrontements auraient fait plus de 1000 morts. En bref, Vladimir Poutine a rencontré un proche conseiller du guide suprême iranien. Le président russe veut jouer sa propre carte sur le dossier du nucléaire. Alors que de nouveaux pourparlers doivent s'ouvrir entre l'Iran d'un côté, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne de l'autre. Le gouvernement gouvernement britannique promet de réduire de moitié la pollution des eaux d'ici 2030. En cause, les déversements des compagnies des eaux privatisées à la fin des années 80. Elles n'ont pas investi dans la rénovation des égouts. Pour le ministre de l'Environnement, notre secteur de l'eau est complètement défaillant et le niveau de pollution une véritable honte. Puis les questions d'eau, toujours 22 départements sont en alerte orange en France aux orages. Sur une large bande est qui va des Bouches-du-Rhône à la Moselle, de fortes pluies qui alternent avec des périodes de canicule, ce qui ne règle pas les problèmes de sécheresse. Et toute l'Europe est confrontée à ces changements climatiques. Chez nos voisins allemands, à Berlin, on teste le concept de ville-éponge. Des aménagements urbains tout simples pour ne pas perdre une goutte d'eau de pluie. Reportage de David Philippot dans le quartier de Rummelsburg.
Au lendemain d'une journée à 37 degrés, la pluie trempe le bitume avant de s'écouler au milieu d'une rue dans un fossé d'herbe folle.
Cet espace vert est en dénivelé de 30-40 cm sous le niveau de la rue.
Commente Stéphane Natz, porte-parole de l'agence municipale Wasserbetrieb.
Elle est légèrement inclinée pour que l'eau arrose directement la végétation.
Pas de caniveau dans le quartier, pas de bouche d'égout non plus. L'eau reste sur place plutôt que de s'échapper dans la rivière Spree et les résultats se voient à l'œil nu.
Regardez cet érable à côté. Il a été planté en même temps que l'autre qui se trouve dans le fossé irrigué, mais son tronc est deux fois moins large.
Depuis les toits végétalisés, l'eau dégringole par les gouttières pour arroser directement les cours intérieures, dont les arbres protègent du soleil les façades des immeubles. Ces petits aménagements facilitent la vie des résidents, comme Monica et Peter.
C'est très agréable ici. On est dans le centre-ville, mais quand même dans la nature.
La chaleur ne rentre pas autant à l'intérieur et cela reste frais chez nous.
Depuis 2018, à Berlin, toute nouvelle construction doit prévoir un système de recyclage de l'eau de pluie.
David Philippot. Et puis j'ajoute que 3 départements en France sont en vigilance orange aux feux de forêt pour risque élevé. Il s'agit des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse du Sud. Alerte qui sera en cours demain lundi. Chaque été, ils sont de plus en plus nombreux à sillonner les chemins de Compostelle, sac sur le dos, bâton de pèlerin en main. L'itinéraire le plus connu passe du Puy-en-Velay pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice au bout de 1500 km. Alors la plupart des randonneurs en font un petit bout chaque année en passant par le village d'Aumont-Aubrac en Lozère. Parfois chrétienne pour se reconnecter à la nature ou pour faire des rencontres, chaque randonneur, Saïd Makhloufi, a ses raisons.
Bertrand est un marcheur.
Pèlerin, donc en route vers Saint-Jacques.
Et vous marchez seul?
Alors on n'est jamais vraiment seul.
Le long des routes lozériennes, il a croisé le chemin d'Anaïs et Sophie.
Marcher, se déconnecter, les paysages, rencontrer des gens.
Vous aimez marcher?
Parler surtout. Parler. Ouais, c'est ça, papoter, débriefer sur l'année qui vient de s'écouler.
Chaque jour, des centaines de marcheurs arpentent les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Romane, 22 ans, marche pour s'aérer l'esprit.
Voilà, j'avais passé une année de merde. On se le dise, et j'avais envie de faire quelque chose pour moi et de me retrouver et de faire quelque chose qui avait du sens pour terminer mon année de césure. Et il y a vraiment aussi, comme on le disait, cet esprit d'entraide, le fait qu'on croise toujours des gens, etc. Et aussi le fait que quand on est une femme seule, finalement, on parle à beaucoup de gens et on n'est jamais vraiment seule.
Romane vient de terminer son périple. Elle a passé sa dernière nuit à Aumont-Aubrac, point d'étape incontournable du Compostelle. Une aubaine pour les commerçants du village. Nathalie tient la supérette du centre.
Heureusement qu'on a les pèlerins parce que ça amène déjà une vie dans le village et on est content de les voir.
Ça fait marcher la boutique?
Oui, tout à fait, c'est ça. Ça nous fait du bien, oui.
35 000 pèlerins traversent chaque année le village d'Aumont-Aubrac.
Saïd Makhloufi, d'ici Gare Lozère, ex-France Bleu. Et pas de col hors catégorie aujourd'hui au programme du Tour de France, mais des bonnes montées tout de même sous une chaleur assez accablante pour la 15e étape entre Muret et Carcassonne, remportée par le Belge Tim Wellens. Étape marquée par une grosse chute collective au départ. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Corinne.
Et avec sur le pavé Julien Alaphilippe.
Oui, mais lever les bras sur la ligne, ça n'a pas de prix. Surtout quand on croit avoir gagné. Julien Alaphilippe, vous l'avez dit, a connu une journée folle. Victime d'une chute au début de l'étape, l'épaule touchée. Il est revenu dans la course en serrant les dents, et pas qu'un peu, puisqu'il s'est retrouvé à l'avant, au point de sprinter sur la ligne et de jubiler. Sauf qu'il y avait déjà 2 coureurs devant lui.
Ce qui m'est arrivé, j'ai été pris dans une chute et
Je me suis déboîté l'épaule. J'ai eu quelques secondes où je pensais que c'était fini, mais je me suis souvenu comment ils avaient fait à l'hôpital et j'ai réussi à la remettre. Puis après, voilà, je me suis battu parce que j'avais des bonnes jambes et malheureusement, la radio marchait plus après la chute. Donc, comme un con, j'ai fait le sprint pour essayer de gagner et voilà.
Voilà, bah, rien de trop grave a priori, hein, mais Julien Lafilippe va faire une radio quand même de l'épaule, hein, pas de l'ego, rien de méchant. Croire en la victoire en n'étant pas le premier, c'est un classique des courses de vélo. Mais oui, le premier aujourd'hui, c'est bien Tim Wellens, le champion de Belgique, une figure du peloton, 34 ans, et qui remporte enfin sa première victoire sur le Tour.
Je suis maintenant entré dans une très très belle liste où je suis très fier de gagner au Giro, au Tour et Vuelta, et surtout aujourd'hui gagner une étape au Tour de France, la plus belle course, la plus grande course au monde, avec le maillot de champion de Belgique, c'est vraiment un sentiment magnifique.
Ouais, la victoire de Wellens, encore une, hein, pour l'équipe du cannibale slovène Tadej Pogacar, toujours en jaune avant le repos et surtout avant d'affronter le Ventoux, un mythe du Tour sur lequel Poggi lorgne. Les Français aussi, on l'espère, toujours Fanny sur ce Tour de France.
Et merci Xavier Monferrand, avec les moyens techniques d'Hélène Langlois, toujours aussi passionnant, et se remettre l'épaule après l'avoir déboîté, ce n'est pas à tenter chez soi. Loïs Boisson confirme les espoirs placés en elle. Demi-finaliste inconnue à Roland-Garros, elle a remporté cet après-midi le tournoi de Hambourg. C'est son premier titre sur le circuit principal WTA. En moins d'une heure, elle a battu la Hongroise Anna Bondar de 7-0, 7-5-6-3. C'est la première Française à remporter un tournoi de ce niveau depuis Caroline Garcia en 2022. Et j'ajoute qu'à 22 ans, Loïs Boisson intègre le top 50 des meilleures joueuses mondiales. On regarde le temps de ce soir et demain.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Corinne.
Des orages encore prévus pour cette fin de journée.
Oui, ce soir et cette nuit, grêle, rafales de vent et cumuls de pluie sont attendus du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes et le temps reste couvert demain matin pour une grande partie du pays sous un régime d'averse qui s'installe des Ardennes jusqu'au bassin d'Arcachon. Des orages circulent également de l'Alsace vers la Franche-Comté et les Alpes et les nuages recouvrent les Pyrénées et le Piémont, tandis que dès les premières heures, les régions méditerranéennes retrouvent leur soleil. Partout ailleurs, le temps alterne entre éclaircies et passages nuageux sous des températures en baisse, entre 12 à 16 degrés le matin et jusqu'à 19 à 21 sur le pourtour méditerranéen.
Et l'après-midi, la pluie gagnera du terrain.
Oui, les deux tiers nord du pays sont sous les averses localement orageuses, notamment de la Bretagne au Grand Est et sur le nord des Alpes, accompagnées par un vent d'ouest à sud-ouest qui se renforce sur la moitié nord entre 50 et 70 km par heure. Côté sud, le temps s'éclaircit avec un soleil toujours bien présent autour de la Méditerranée et sous des maximales entre 24 et 29 degrés contre 18 à 24 au nord du pays.
Merci Magali Rochereau.